Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Pauline sur RDWA, que vous écoutez sur 107.5 FM ou sur www.rdwa.fr. Nous sommes au Théâtre de Die, en compagnie de Virginie Komanieski, conteuse et auteure, et de Violette Doré, comédienne et metteuse en scène. Bonjour mademoiselle.
Bonjour madame.
Et merci de nous recevoir dans votre espace de travail. Alors vous venez d'arriver au théâtre, il y a quelques heures, afin d'entamer dès aujourd'hui une résidence de création, pour le spectacle Comté, Rouge Mémère, écrit et interprété par Virginie et mis en scène par Violette. Spectacle qui fera sa première, si je ne me trompe, jeudi prochain, le 20 à 20h, au Théâtre de Die. Ce sera bien la première, non?
Pas exactement, mais oui. Ah. Voilà, c'est une réponse de Normand. Ce sera pas exactement la première, parce que dans l'histoire de ce spectacle, il y a d'abord eu, après l'écriture, un moment où j'ai eu envie d'offrir une lecture publique. Il y a 2 ans de ça. Et puis ça s'est rendormi, parce qu'il avait besoin encore de gestation, ce travail-là. Et ensuite, on a commencé à travailler avec Violette, et en cours de travail, on a fait une première présentation qu'on a appelée « En chantier ». Où on était vraiment en chantier. On avait
C'était le début du chantier.
Voilà. Ce qui nous permettait de voir un peu quelles étaient les pistes qui tenaient, qu'est-ce qu'on devait lâcher, où on devait aller. Enfin, ça nous permettait d'affiner en le confrontant au public. Et en janvier, là, il y a à peine un mois, on a aussi décidé de refaire une portion de travail et de faire une première présentation avant résidence pour sentir un peu finement ce qui nous restait à travailler et comment ce qu'on sentait là solide et choisi était reçu par le public. Parce qu'il y a des choses qui se passent avec le public qu'on ne peut pas supposer, qu'on ne peut sentir que quand on le confronte. Alors voilà, ça va être la troisième en fait.
La troisième confrontation au public, mais c'est la première
présentation de travail.
Voilà.
Oui,
voilà,
avec la bande-son est terminée, alors qu'elle n'était pas finie. Il y a des détails, il y a plein de choses qui...
Il y aura de la lumière qu'il n'y avait pas. Ouais. Enfin, il sera, disons, fini complètement. Ouais. Après, c'est vrai que un spectacle, on le fait pour le public. Et c'est vrai que dans ce travail, on a eu envie de temps en temps de voir déjà pour qui on allait le donner et de se confronter déjà à... Bon, après, c'était un public choisi, positif, c'était pas le tout venant.
Que des gens qui ont un avis positif,
que des
on les avait triés sur le volet. Très bien. Virginie, tu es l'auteur du texte,
oui.
En Rouge Mémère, une libre interprétation d'un célèbre petit chaperon rouge, passé à la moulinette du multiculturalisme et matinée d'histoire familiale personnelle ukrainienne et de rêves d'enfant. Peux-tu nous parler de ce texte, de tes sources et de ton travail d'écriture?
Alors quand j'écris, déjà, je suis dans un état second. Alors c'est très difficile à recontacter et à parler de ça. Ce spectacle-là, je l'ai écrit en 48 heures. Il y a eu des choses qui bouillonnaient en moi, qui moulinaient, puis je peux mouliner très très longtemps. Je sais que c'est un moment où je m'intéressais au petit chaperon rouge, où j'ai commencé à aller fouiller toutes les versions originelles. Il y a différentes personnes qui ont publié comme ça des recueils qui font état des différentes versions qu'on a pu répertorier dans le monde du chaperon rouge. Toutes ces versions, elles sont extrêmement provocantes, comme peuvent l'être parfois les rêves quand ils veulent nous montrer quelque chose. On fait des rêves des fois extrêmement déroutants ou provocants parce qu'on a quelque chose derrière, d'important à comprendre. Et ces versions du chaperon rouge, elles me faisaient cet effet-là. Et finalement, ce qu'il nous en reste aujourd'hui, c'est très gommé, c'est très lisse, c'est très gentil. Mais l'essence de ce conte-là, pour moi, ce n'est que mon avis, a été perdu quand même en cours de route. Et puis, parallèlement à ça, il y a cette histoire de famille. On est tous porteurs d'une histoire de famille. On est tous modelée par ça et je n'irai pas expliquer pourquoi maintenant aller revisiter ça, si ce n'est que la maison de mes mères vient d'être vendue et qu'il y avait quelque chose qui se terminait là aussi et tout un pan de leur histoire qui se ferme là.
Mes mères étant...
Ma grand-mère. Ma grand-mère ukrainienne. Mes autres grands-parents étaient polonais et ces grands-parents-là, grands-parents maternels, donc étaient ukrainiens. Là, je ne sais pas comment ça se passe à l'intérieur. C'est une joyeuse popote dont je ne peux pas intellectuellement expliquer ce qui se passe. En tout cas, je sais que dans l'écriture, dans tous les spectacles que j'ai écrits jusque-là, c'est comme comme un tissage, comme différents fils qui en se croisant, se révèlent les uns aux autres. Le chaperon rouge venait me révéler des choses de mon histoire ou de mon lien à cette grand-mère. C'est aussi, par essence, le chaperon rouge, le conte de la transmission, le conte du passage. C'est ce conte qui dit comment les générations doivent s'éteindre pour permettre à de nouvelles générations de germer, de prendre la place. Et aussi, c'est le conte qui parle du féminin dans son intégralité, c'est-à-dire ce qui se transmet dans le joli et ce qu'il y a dans le féminin de plus cru, de plus difficile à voir ou à intégrer. Voilà, c'est un conte qui est profondément cru et qui parle du féminin, de la transmission du féminin d'une façon très crue. Et dans ces versions originelles, la grand-mère non seulement meurt, souvent d'une façon cruelle, puisqu'elle, dans certaines versions, elle est débitée en morceaux, elle est avalée morceau par morceau, c'est la version que j'ai choisie pour ce spectacle.
Bon programme.
Et dans toutes les versions, par contre, quasiment toutes, les petites filles sont invitées par le loup ou le protagoniste qui remplace le loup, parce que c'est pas un loup dans toutes les cultures. Il les invite à manger la chair de la grand-mère et à boire le sang. Dans certaines versions, elle refuse, comme celle que j'ai choisie. Dans d'autres versions, elle s'en régale. C'est-à-dire qu'elle mange... Et c'est marrant, toi, tu me racontais une histoire comme ça. Comment... parce que, évidemment, l'image est très, très choquante quand on la raconte comme ça et qu'on la regarde au premier niveau. Mais quand on va l'interroger symboliquement, c'est comment on intègre, comment on ingère tout de nos aïeux, de ce qui nous a précédés, et comment on s'en nourrit pour pouvoir grandir. Et dans la symbolique de ce conte, c'est ça, raconté d'une manière très crue, c'est comment la petite fille va ingérer sa grand-mère pour pouvoir prendre la main, continuer son chemin de vie et devenir femme, avec tout ce que ça implique. Et la transmission du chaperon rouge aussi, il y a plein de versions, dont celle que j'ai choisie, où c'est la grand-mère qui est porteuse du rouge et qui va transmettre ce rouge, le rouge de la vie, du désir, du féminin, de tout ça.
Et tu disais, voilà. Le loup, dans d'autres versions, est un autre personnage.
Ouais, c'est quoi? Ouais, ça peut être un tigre, ça peut être un ogre, ouais. Ça peut être un ours.
C'est un accessoire...
pas toujours.
Le quoi?
Non. Non, pas toujours. Dans beaucoup de versions, on le retrouve, la couleur rouge. Après, il y a une version qui est intéressante aussi, où la petite fille, elle porte pas un chaperon rouge, elle porte un vêtement de je sais plus fait dans quel métal, mais comme une espèce d'armure, et elle doit se débarrasser de ce vêtement en le frottant. Donc il y a une histoire de... Et donc il y a une histoire aussi du vêtement transmis et qui doit... Il y a une histoire de passage, mais non, le chaperon rouge n'est pas dans toutes les versions. Ce qu'on va retrouver dans toutes les versions, c'est vraiment cette idée... Alors, cette idée qu'il y a un prédateur, soit qui rentre dans la maison... alors que les petites filles sont déjà dedans, soit qui les précède. Je dis les petites filles, parce que dans la version que j'ai choisie, il y a deux petites filles, là où dans beaucoup de versions, il y en a une. Mais souvent dans les contes, quand il y a deux, voire trois, voire sept, c'est... Pardon. Quand il y a deux, trois ou sept, c'est la même personne qui est décliné, en fait.
C'est comme des facettes,
ouais,
de la même personne, en fait.
C'est comme des... Oui, ou différentes facettes ou différents stades de maturité ou de compréhension. Là, elles sont deux. J'ai choisi qu'elles soient deux parce que mon enfance avec ma grand-mère aussi se décline avec ma sœur. Oui, on était ça. Deux et on était vraiment un binôme. Pareil, deux stades de maturité, deux facettes, ouais. Voilà.
C'est presque psychanalytique, alors.
Totalement. Totalement. Mais pour moi, le conte est très psychanalytique.
Et mythologique. Et
ouais. Après, sans vouloir faire de la psychanalyse à deux balles, c'est-à-dire que je ne cherche pas non plus à maîtriser toutes les matières qui... Pour moi, le conte est une littérature orale, est un langage de guérison, de transmission et de guérison. Mais je ne maîtrise absolument pas tout ce qui se passe. Il se passe des choses très fortes autour des contes. Mm. Voilà. Et c'est ce qui m'intéresse dans le conte.
Et la troisième source, si j'ai bien compris,
c'est le rêve.
Le rêve.
Ouais.
Ce sont les tiens.
Oui, enfin c'est pas le rêve que je raconte n'est pas un rêve que j'ai fait réellement d'un bout à l'autre, mais c'est une compilation, un mélange de plusieurs motifs de rêve que j'ai fait, oui.
Est-ce que tu pourrais nous en dire un extrait, éventuellement ?
Du rêve, du texte.
Du texte.
Du texte.
Celui qui te paraît le plus approprié, celui que tu aurais envie de nous dire maintenant.
Ma grand-mère à moi, c'était mes mères. Mes mères étaient ukrainiennes. C'était pas une maladie, ça lui collait juste de drôles de mots dans la bouche. Ça faisait comme une bouillie que je comprenais pas toujours. Ukrainienne, ça veut dire de là-bas, chez les Rouges, vers l'Est, à l'opposé de l'avoir. C'était une vieille louve des Carpates qui avait fait la traversée du bois sombre du temps où elle était jeune. Elle n'avait pas forcément pris le chemin le plus court, mais elle était arrivée en France, histoire de trouver mieux comme vie. Et là, en Normandie, elle avait fait son trou. Elle n'était pas venue toute seule. Les Ukrainiens, ça se déplaçait toujours en meute. Autour de mes mères, il y en avait d'autres, des Ukrainiens, des vieux. Ils avaient dû être jeunes à un moment, mais ça ne se voyait plus du tout, à l'époque où je les ai connus.
Merci. Violette.
Oui.
Surprise.
Je me réveille.
Réveille-toi. Oui. Quand même deux. Tu es comédienne, metteuse en scène et mime, formée auprès du mime Marceau. Tu as beaucoup travaillé dans le milieu du théâtre de rue. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours ?
Oui, alors mime, ça a été le début de mon parcours. Hein. Je ne fais plus de mime, mais j'ai commencé parce qu'en fait, j'aime le théâtre corporel. Et c'est vrai que j'ai commencé ma vie de comédienne à l'école Marceau, donc à l'école du mime. Et ensuite, quand je suis sortie de chez Marceau, j'ai travaillé avec un gars qui s'appelle Philippe Autier, qui était au Théâtre du Soleil, avec qui j'ai travaillé d'autres outils théâtraux, le masque, le clown, le texte aussi, et le conte. Il faisait aussi des stages de conte. Donc j'ai eu une deuxième formation avec lui, à base de stage d'un mois que je faisais de temps en temps. Et voilà, tout ça parce que effectivement, le théâtre que j'aime, c'est un théâtre où le corps est investi. Ça ne veut pas dire qu'on gigote dans tous les sens, mais ça veut dire que c'est pas simplement par la voix. C'est le corps entier est investi dans le travail que j'aime voir et que j'aime faire.
Et qu'est-ce qui t'a parlé dans ce projet ? Comment tu y es arrivée ?
Donc Virginie m'a envoyé.
Tiens.
Voilà, Virginie m'a envoyé le texte qu'elle l'avait écrit et que j'ai trouvé superbe. J'ai beaucoup aimé ce texte. Et du coup, voilà, je lui ai dit que quand elle avait envie de le mettre en œuvre, si elle avait besoin d'un regard extérieur, je serais là. Et ça a pris du temps. C'est un projet qui a pris du temps. Et que c'était bien pour l'une comme pour l'autre de laisser ce temps-là.
Ça fait combien de temps que ça a été initié ?
Je l'ai écrit il y a 2 ans.
Voilà, donc 2 ans.
Le temps de la maturité, peut-être. Ouais.
Oui, c'est ça. Non, mais et puis même on travaille comme ça, c'est-à-dire on s'est vu 3-4 jours, puis pendant un mois on se voit pas. Ça mûrit doucement. Hop, on se revoit, on redonne un petit coup et on l'a laissé mûrir comme ça. C'est vraiment, j'ai eu l'impression de faire un travail d'éclosion, que ça se faisait tout doucement et voilà, c'est un accompagnement.
Naturellement.
Oui, c'est un accompagnement qui s'est fait assez naturellement.
Et le texte a été retouché au fur et à mesure des avancées du travail.
Oui, bien sûr. Mmh. Oui.
Non, en plus, je crois que c'était important que ça se fasse comme ça parce que il y a de la matière personnelle et que ça demande ce temps-là pour être complètement à distance et au service de ça. Ça demande de la distance.
Oui.
Sinon, on est envahissant avec notre histoire, quoi. Mmh. Voilà.
Donc voilà, on a eu le temps pour lâcher chaque chose qui n'était pas indispensable, y compris le décor où au départ il y avait besoin d'appui pour incarner les. Voilà. Pour moi, le défi c'était d'arriver à incarner ce texte. Vraiment, que les choses soient complètement là, le plus là possible. Et du coup, au départ, on a eu besoin d'appui. D'appui, il y avait une porte, il y avait des choses comme ça. Et puis...
Des accessoires.
Voilà, un peu des accessoires. Et puis, en fait, progressivement, c'est rentré à l'intérieur, ces choses-là. Il n'y a plus besoin, les appuis ont été des appuis intérieurs. Et voilà, et on se retrouve maintenant avec un
presque
plateau...
Presque tout nu sur un plateau vide.
Voilà. Donc, nu. Parle-nous.
Oui. Ça peut faire venir du monde, ça.
Éventuellement, je ne sais pas.
Non, et en fait, le plateau est plein. Mm. Il est plein de Virginie,
monde, hein.
Et il est plein d'Ukrainiens.
Il y a du monde.
La famille, c'est une famille nombreuse.
Non, c'est une communauté nombreuse.
Oui.
C'est pas la famille, c'est vraiment, c'était vraiment une communauté. Et oui, ils étaient nombreux. Moi, je croyais que c'était que... Je le dis dans ce que je raconte, que je pensais que tous les vieux étaient comme ça, tellement tous les vieux que je voyais étaient ukrainiens. Donc, ils avaient tous une manière bizarre de parler. Ouais, non, ils étaient très, très nombreux.
Comment ça va se passer, votre travail, cette semaine? On évoque souvent le terme résidence de création. Finalement, il y a plein de gens qui ne savent pas ce qu'on y fait. Vous êtes à la fin du travail de création. Donc, est-ce que vous pouvez dire un peu votre programme pour la semaine, puisque vous allez commencer cet après-midi? Et peut-être donner une journée type de travail. Comment ça se passe ici, dans le théâtre, là où on se trouve?
Tu veux répondre? Non, je commence.
Comme tu veux.
On va disséquer. On va travailler des petits morceaux, morceau par morceau. Il y a des passages qui ont besoin d'être encore fouillés, où on cherche, je ne sais pas, plus de fluidité, plus de précision. Donc, il y a ça. Il va y avoir un premier temps où on va travailler des petits morceaux. Après, ce temps-là, il permet aussi de travailler les liens entre tous ces morceaux, de trouver un rythme et une unité. Et ça ne se fait que à coup de passage et de repassage et de repassage. On tanne, vraiment. Donc on fait des petits morceaux et des filages. Et puis voilà, parfois on va chicaner sur un petit détail qui ne nous plaît pas ou sur lequel on a envie d'aller plus loin. Et on peut travailler comme ça pendant une demi-heure, une heure sur un tout petit morceau. Voilà, en gros, il y a aussi le technicien du théâtre qui vient travailler avec nous une journée, qui va faire la création lumière. Donc il y a une journée qui sera consacrée à ça. Il y a un ami photographe et vidéaste qui va venir prendre des photos et faire un film. Donc cette résidence, elle permet ça aussi. Et puis, il y a quand même tout un travail d'appropriation de cet espace. Je ne l'ai pas joué dans un espace aussi grand pour l'instant. Et je pense que je le jouerai pas forcément tout le temps dans un espace aussi grand. Donc il y a un travail, voilà, qui va être spécifique à ce lieu, quoi.
Oui. C'est un très beau lieu en même temps, qui est vraiment. Enfin, quand on est arrivé, on s'est dit waouh, on est là pour une semaine.
Ah, vous avez de la chance. Hein.
C'est bien, c'est
beau. Oui, non, c'est très bien. Et pour ce qu'on vient y faire, c'est super pour le travail, parce qu'effectivement là, c'est l'affinage. On a quand même.
On sait où on va.
Voilà, on a quand même un morceau, une structure qui tient à peu près la route. Hein. Donc là, on fait vraiment un travail de détail, un travail de précision. Voilà, précision, c'est le mot que j'aime bien, que tu as dit, que je relève, parce que c'est vraiment ce travail-là.
C'est ce moment où on fait la dentelle. Moi, j'aime bien ça, dire ça aussi.
Ouais.
Vraiment,
ça fignole.
Et puis du coup, plus on arrive à finir ce travail-là, plus après, ben, on peut mettre tout le reste, tout ce qui n'est pas palpable et qu'on donne quand on est dans le public.
Ouais,
mais c'est vrai que quand, au niveau technique, on sait tout le corps, on sait exactement où il va et tout ça. Mmh. On peut vraiment être totalement libre et totalement avec les gens.
Oui, mmh. Puis ça ouvre des nouveaux espaces même.
Mmh. Et Virginie est une grande... Enfin, moi, j'admire cette grande densité qu'elle a quand elle est sur scène et cette grande présence. Et,
Comment tu ouais. définirais son jeu, sa manière de, d'interpréter
elle
par
a
rapport
une...
à ce que tu... Ouais.
Je trouve qu'elle a une grande présence et qu'elle a une grande capacité émotionnelle. Voilà. Une grande densité émotionnelle. Et que... moi, je trouve ça très touchant quand je suis en public... Voilà.
Mmh. Vous aviez déjà travaillé ensemble ?
Jamais.
Non.
Non. Vous vous appréciez ?
Ah ben ouais, c'est ça. On n'avait fait que copines pour
oui,
l'instant.
Oui, c'est ça. Mais... C'est ça. Et... On était juste copines. Ouais. Maintenant, on est collègues en plus. Ouais, c'est...
Et c'est pas toujours évident d'ailleurs quand on est copine de faire ce pari du travail ensemble. Et alors là, pour le coup. On permet de si on n'en était pas sûr, de vérifier qu'on n'est pas copine pour rien, quoi. Mm. C'est vrai, il y a une espèce de truc évident, là, mm. dans le boulot. On est d'accord. Voilà, alors, ça marche.
Ça va rouler tranquillement.
Ouais.
Ça.
Oui, il n'y a pas eu beaucoup de choses qui nous ont bloquées. Mm.
Bah, ouais. Le rêve.
C'est pas mal. Finalement.
Oui, oui.
Alors, j'ai une dernière question, peut-être. Le conte, c'est souvent estampillé jeune public. Rouge Mémère est un spectacle parfois cru. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion de lire le texte et mmh. de travailler un petit peu avec toi. Avec des mots rêches qui parfois accrochent et interrogent le sens commun. Quel est le type de public, en fait, auquel ça s'adresse et comment ça s'est défini au fur et à mesure de votre travail ?
Alors moi, j'ai une vigilance par rapport à ces termes-là de tout public, de jeune public, avec tout ce que ça trimballe et tout ce qu'on... Mon rapport au conte, en tout cas, et de tout le temps, c'est de toujours, comment dire, de l'aborder, enfin de le donner, de sorte à ce que tout le monde puisse y prendre quelque chose. Pour moi, l'estampille jeune public, à part si on parle de tout petit, il y a des choses qu'on ne peut pas livrer à des enfants de 3 ans ou de 5 ans et qu'on va livrer à tout le monde. Après, passer un certain seuil, je trouve vraiment qu'il est important pour moi que les messages puissent toucher tout le monde. Je ne crois pas à... Du coup, c'est rigolo parce que on parlait de transmission tout à l'heure et de passage. Je pense pas que quand on est enfant, on est dans des choses protégées, naïves. Enfin, je crois qu'on est au contact intuitivement de choses bien plus fortes que ce qu'on veut bien en dire. J'ai beaucoup de mal avec les travaux jeunes publics qui bêtifient ou qui rabaissent l'enfant à un niveau de tout petit qui...
Oui, alors après, si on part de ton texte,
ouais.
Il y a quand même des choses, t'as pas envie de...
Non, il y a des choses
de
dont...
choquer,
non,
tu,
c'est ça.
Tu disais, il y a des images un peu
ouais.
hard quand même.
Ouais. Sur ce spectacle-là, je ne me sentirais pas de l'offrir à des petits, c'est clair, parce que ça leur est pas... Ouais, ça leur est pas destiné. Voilà, donc il s'adresse à tout public. Ça m'est difficile pour l'instant d'estampiller un âge vraiment. On a annoncé à partir de 9 ans,
10 ans.
Ça va être aussi l'objet de la résidence de sentir ça, de voir.
Oui, et puis les enfants aussi, quand ils viennent en famille, c'est pas pareil.
Ouais. Oui, tout à fait.
Et là,
ouais.
En plus, vous allez avoir une représentation scolaire
ouais.
Jeudi matin, je crois. Donc, ce sera aussi l'occasion de tester ça.
Ouais.
Je ne sais pas quel âge ils
de
ont.
Voir, de voir ce, qu'il, ouais. ce qu'ils en prennent. Mm.
Peut-être d'avoir
oui,
un échange.
Il y a des images fortes et crues. C'est clair.
Et le spectacle est coproduit, je crois, avec le coq qui disserte. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce partenariat, peut-être Isabelle Catois du Théâtre de Die.
Isabelle, tu veux en dire un mot ?
Oui, je suis Isabelle Catois. Voilà, je suis coordinatrice générale au Théâtre de Die. Je m'occupe des actions culturelles aussi, de la programmation jeune public ou tout public dès quelques années. Tu peux rester là. Le coq qui disserte, donc c'est un partenariat qu'on a depuis quelques années autour du conte. Donc Ghislain Papin qui s'occupe de cette association qui est aussi conteur. Il a un petit lieu à Recoubo où tous les deux mois il fait une programmation. Et puis en partenariat, chaque année on accueille un spectacle ensemble ici au Théâtre de Die. Et donc cette année on accueille Virginie.
D'accord, donc c'est en voilà. Coproduction en quelque sorte.
Entre le coq qui disserte oui. Et le Théâtre de Die.
D'accord.
Oui, ouais, ouais, tout à fait.
Vous, il y a des choses que vous pensez ne pas avoir évoquées, on en a évoqué pas mal, mais qui vous manquent un peu.
Oui, non, moi juste, je voulais dire, quand j'ai reçu le texte de Virginie, ce qui m'a touchée beaucoup aussi, c'est que moi, je viens, alors pas du tout d'Ukraine, c'est très différent au niveau des tout ça. Ma grand-mère était portugaise. Et j'ai aussi une sœur, et il y avait des blocs de ces souvenirs que je retrouvais vraiment. Et il y a un lieu où c'est vraiment universel ce qu'elle raconte, et qui m'ont vraiment replongé, bouf, j'avais des bouffées de souvenirs d'enfance. Voilà, il y a vraiment un lieu où, et c'était très touchant pour moi de trouver cette universalité dans ce que raconte Virginie.
Bien. C'est ce que, oui.
Oui,
non, c'est ça, c'est parfait.
C'est bon.
C'est ce que parfait. Je cherche, moi, à travers ce travail-là. C'est aller toucher des choses qui sont universelles, donc c'est parfait.
Oui, c'est un programme très, très bien. Eh bien, Violette, Virginie, Isabelle, merci beaucoup pour votre accueil. Vous retrouverez les horaires et détails de cette sortie de résidence et première qui se jouera ici même, jeudi prochain, le 20 à 20h, c'est ça? Sur le site du Théâtre de Die, www.théâtre-de-die.com. Vous pourrez retrouver également cette interview et les liens internet sur le site www.rdwa.fr dès aujourd'hui dans la rubrique interview, et ce, de manière perpétuelle. Pour finir, nous allons écouter en exclusivité un extrait de la bande-son qui introduit le spectacle, voilà, sur laquelle nous avons un petit peu travaillé ensemble. Séquence onirique d'introduction qui plante le décor des rêves. Bon travail, mesdemoiselles, à jeudi prochain sur vos planches avec Rouge Mémère.
Libérez-vous de la prolifération des mères grands.
La vieillesse, c'est la dernière politesse de la moisissure.
Une grand-mère lyophilisée
est une grand-mère bien conservée.
Okay, the bird.